18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec le rappel des titres de l'actualité, François Causse.
Le Premier ministre Jean Castex gagne la paix sociale en jouant la montre. Satisfaction globale des syndicats du MEDEF à la CGT, en passant par FO et la CFDT. Après l'annonce que les concertations sur la réforme des retraites et sur l'assurance chômage seront reportées de quelques mois. Jean Castex parle d'un aménagement du calendrier tout en affirmant vouloir mener malgré tout ces réformes jusqu'au bout. À Bruxelles, ce sont des négociations ardues qui se tiennent en ce moment même. La plupart des chefs d'État arrivés depuis hier confirment l'impression formulée par Emmanuel Macron lui-même. Ce sera long et difficile. Les 27 ont pour objectif de s'entendre sur un plan de relance européen de 750 milliards d'euros et de s'endetter ensemble, ce qui constituerait une première historique en Europe. Les autorités de Barcelone ce soir exhortent la population à ne pas sortir face aux signes d'accélération de la circulation du virus. Sur Europe 1 ce matin, le président de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France conseillait à tous ceux qui s'apprêtaient à voyager dans les prochaines heures pour le deuxième week-end de grand départ de l'été de se faire tester. 9500 lycéens sont encore en attente d'une affectation. Parcoursup a répondu positivement à 585 000 bacheliers. Il faut dire que le taux de réussite record au bac cette année a quelque peu compliqué le travail de la plateforme. Il y aura sûrement beaucoup d'émotions tout à l'heure au Parc des Princes. 5000, pas un de plus, privilégiés, qui vont pouvoir entrer après 4 mois de disette dans l'enceinte du Parc des Princes. Alors l'affiche n'a rien de bien séduisant. Les stars du PSG en 4 mi-temps de 30 minutes affrontent les modestes Belges de Beveren pour se préparer à leurs deux finales de coupe. Mais on l'a compris, l'intérêt va au-delà de l'affiche. Juste de retrouver un peu de foot, en vrai.
Merci François, édition complète bien sûr à 19h. La météo des plages, Anissa, direction la côte atlantique et le nord.
Avec du grand soleil demain, je vous ai dit que l'été est revenu, ça y est, l'été est là. De Lorient à Saint-Jean-de-Luz, il fait beau demain. Tiens, on s'arrête, on pose la serviette à Royan. Le soleil brille avec 28 degrés sur la plage et seulement 20 degrés dans l'eau, c'est encore un peu frais.
Ouais.
Sur le nord et la Manche demain, là aussi c'est du très beau temps, du Pas-de-Calais jusqu'au Finistère. L'eau va même gagner 1 degré partout, c'est quand même pas mal. À Honfleur demain, la mer est belle, sous le soleil l'eau est à 17 degrés et il fera 22 sur le sable.
Merci Lisa.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Thierry Dagiral et avec les grandes voix qui vous entourent. On décortique toute l'actualité avec ce soir Yves Tréhard du Figaro et Frédéric Dabi de l'IFOP.
Et bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Merci
bonsoir
d'être
à tous.
Sur
bonsoir
Europe 1. Ils sont en rodage. Rodage, ce sera le mot qu'on va décliner ce soir. Rodage des partenaires sociaux et de Jean Castex. Première grosse réunion de travail ce matin à Matignon.
Il semble que quelque chose soit en train de changer dans la méthode du gouvernement. C'est un peu un constat, cette réunion est une réunion assez productive. Donc moi je veux considérer que c'est un point positif. Il semble d'ailleurs qu'au-delà du discours, le Premier ministre nous invite, nous partenaires sociaux, à prendre nos responsabilités.
Voilà François Omri de la CFE-CGC avec Olivier Samin. Quelque chose a changé Yves Tréhard.
Bah oui, il y a eu l'arrivée du Covid.
Cette respiration.
Il y a eu l'arrivée du Covid et ça a tout foutu par terre.
Et ça a tout foutu par terre.
Et ça a tout effacé du programme évidemment de Emmanuel Macron et même des quelques réformes qu'il a faites au début de son quinquennat. On va sortir de ce quinquennat finalement avec une seule année de réformes, la première. Ouais, ouais. Souvenez-vous, le code du travail
et le reste, la gestion
et quelques autres réformes qui n'étaient pas négligeables d'ailleurs, et difficiles à faire. Et là,
la SNCF aussi.
Il y a la SNCF, bien
2018,
sûr. Et après, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu les gilets jaunes, le grand débat, la crise sociale autour de la réforme des retraites, maintenant le Covid, et le temps aujourd'hui d'écoper cette crise qui va être apocalyptique, il faut le dire. Pardon d'être aussi négatif que ça, mais je pense que ça sera pareil dans le monde entier. Et avec un gouvernement là, qui sera jugé, pour le coup, sur sa capacité à pouvoir tenir et à pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de chômage, qu'il n'y ait pas trop de plans sociaux et qu'il y ait quand même un climat dans ce pays social qui ne soit pas un climat éruptif. Malheureusement, je crains fort que sur les deux premiers points, je pense que sur les deux premiers points, il peut faire l'affaire. En tous les cas, il prend le taureau par les cornes et, à mon avis, de pas trop mauvaise façon. En revanche, on sent les nerfs à vif de ce pays de façon... dramatique d'ailleurs, les Gaulois réfractaires, il avait raison, il avait évidemment raison de dire ça.
C'est tendu, ça peut repartir à tout moment.
Ça peut repartir, on le sent à tout moment. Alors là, il va y avoir l'été qui va sans doute faire que les gens vont penser un peu à autre chose si le Covid n'est pas trop présent. Et puis la rentrée, bien la rentrée, ça risque d'être assez particulier. Pardon, en deux mots, si vous voulez, j'estime que depuis 10 ans dans ce pays, 15 ans, pardon, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, eh bien ce pays n'arrête pas de gueuler, quoi. Il gueule sans arrêt.
Mais quand même, des réformes sont faites.
Et quelques réformes se sont faites, évidemment. Mais on est quand même... Et je crains vraiment pour son avenir, parce que le quinquennat n'était pas une bonne chose, ça c'est sûr.
Frédéric Dabi, ne pas mettre le feu aux poudres, voilà pourquoi on a retiré les réformes qui peuvent fâcher.
Il y a des risques. Enfin, j'entends bien ce que dit Yves et je partage ce qu'il a très bien dit. Oui, cataclysme économique qui arrive. Oui, les Français en ont conscience. On n'est pas du tout dans le contexte de 2008-2009 où, parce que la crise financière avait été très peu douloureuse, il y a eu 48 heures de crainte sur les dépôts bancaires et après c'était fini. Quand le chômage s'est mis à augmenter un an après, les Français ont été saisis. Là, les Français s'attendent à la vague, s'attendent au tsunami. Emmanuel Macron, comme Giscard d'Estaing en 80-81 et comme Nicolas Sarkozy en 2011-2012 va finir son premier mandat ou son mandat unique dans un contexte de crise aiguë, pour autant, mettre fin, fermer complètement la réforme macronienne constitue pour lui un danger mortel.
Bah, n'oublions pas que... la présidentielle sans avoir porté ses réformes, c'est
difficile. Je suis un peu moins sévère que Yves. Il a fait des réformes.
J'ai pas dit qu'il en avait pas fait.
Il en a fait... peut-être la première année,
importante.
La deuxième année un peu moins, mais n'oublions pas que c'est un président structurellement impopulaire, entre 38 et 40% de satisfaits, de bonnes opinions sur les questions que l'IFOP pose, mais le cœur du soutien de son socle, qui tient bien, c'est cette sainte alliance dont je parlais entre sympathisants d'En Marche et sympathisants de droite, c'est la posture réformatrice. Et Che Guevara parlait de la révolution comme une bicyclette, le macronisme sans mouvement,
parce qu'en effet,
a déjà des véritables fragilités, mais bien sûr, il y a cette question du climat social absolument électrique, et la rentrée, c'est toujours un moment de très grande tension sociale.
Parce que sur l'assurance chômage, Yves Tréhard, par exemple, l'UNEDIC reste dans le rouge, et il faudra bien un moment qu'on...
Bien sûr. Mais alors, si vous voulez, ces deux réformes-là, la réforme des retraites et la réforme, effectivement, de l'assurance chômage, ce sont des réformes qui ne sont pas simples. D'abord parce qu'il a des interlocuteurs, ils ont des interlocuteurs, les syndicats, qui sont vent debout contre ces deux réformes. Les retraites sur quasiment, principalement sur l'aspect paramétrique qui avait déjà été, c'est-à-dire reculer l'âge de départ à la retraite qui avait déjà été écarté. Bon, là, il l'abandonne, on peut le dire. Hein. Il reporte à 2021, il reporte au calendrier grec.
C'est signé
C'est signé. Et pour ce qui est de l'assurance chômage, même...
Oui, parce que la réforme juste avant la présidentielle...
Voilà, même le plus grand, même le meilleur allié, je dirais, syndical, qui est Laurent Berger, était contre cette réforme de l'assurance chômage. Donc elle aussi, à mon avis, elle n'aura pas lieu. Mmh. Mais j'ai été dur, mais je n'ai pas été dur pour le président, j'ai été dur pour ce pays, qui est quand même, qui a du mal à se changer, qui a du mal à dialoguer. C'est un non-dialogue qui existe dans ce pays. C'est assez heureux de voir que ce Premier ministre, que personne ne connaît, eh bien, arrive par sa bonhomie, par ses idées claires. Il a les idées très claires et très précises.
C'est ce que disait
à faire en sorte que peut-être les gens arrivent quand même à se parler.
Un exécutif donc en rodage et des questions qui restent en suspens. On en parle dans un instant sur Europe.
Le débat des grandes voix sur Europe dans votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagiral.
Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces cette semaine et avec beaucoup de questions encore en suspens, notamment sur l'embauche des jeunes de moins de 25 ans dès la rentrée. C'est beau. C'est flou, Yves Tréhard.
C'est flou, mais c'est surtout que ça ne correspond pas tellement, finalement, à la politique et à la philosophie politique d'Emmanuel Macron.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait du social-démocrate.
Il fait du lancement.
Certes, il vient de ce
camp-là. Hollande avait lancé des
emplois. Mais il fait du Aubry, quoi. Ouais. C'est les emplois aidés.
Les emplois jeunes.
Et il faut le dire, la droite a fait la même chose. L'emploi aidé en France, c'est une vieille manie.
C'est juste une rustine, alors ?
Mais oui, parce que le traitement social du chômage, on le connaît depuis Raymond Barre, en gros. Depuis les années 1976. Et on a deux particularités dans ce pays. Un, on vit avec une dette énorme et qui ne va pas évidemment s'améliorer et qui va aller en se creusant. Depuis 1974, nous n'avons pas voté un budget à l'équilibre. Et là, par la force des choses, ça ne pourra pas être le cas. Mmh. Et deuxièmement, là où les autres créent de l'emploi, dans les grandes démocraties comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, eh bien nous, on préfère le traitement social du chômage. Mmh. Et là, on est obligé de le faire, ce traitement social. J'en veux pas du tout au président de la République, parce que, regardez, on a perdu 700 000 emplois au mois d'avril, on risque d'en perdre encore à peu près autant d'ici à la fin de l'année. Il faut impérativement faire en sorte d'occuper les gens et surtout de leur faire garder l'espoir. Simplement, il y a une chose que je regrette, c'est qu'on est un pays à très forte épargne, un encours énorme. Et je regrette qu'il n'y ait pas des dispositions dans le plan là, qu'il ne soit pas des dispositions propres à orienter l'épargne pour qu'elle puisse justement soutenir l'activité des entreprises.
Frédéric Dabi.
Oui, alors c'est vrai que on ne peut pas ne pas s'occuper des jeunes. Ça a été fait, oui, il y a eu les TUC, il y a eu le traitement social du chômage. C'est aussi une population que tous les gouvernements suivent ou couvrent comme le lait sur le feu. On se souvient du CIP, on se souvient de ce qui a perdu Dominique de Villepin, qui était parti sur une certaine trajectoire présidentielle, à savoir le contrat première embauche. Donc, oui, très très clairement, et c'est une vraie constante. Rappelons-nous le programme de François Hollande en 2012. Il avait dit, mon programme, c'est la jeunesse. Mmh. Là, Emmanuel Macron, on a quand même peu parlé pendant comment dire, le début de son mandat. Ouais. Et là, très clairement, il a, sur le plan de relance, il a mis le paquet ouais. À travers les formations spécifiques, à travers toute une série de dispositifs qui rappellent effectivement ce traitement social. C'est là où vraiment le macronisme va se trouver dans un corner. Puisque dans un contexte 2017-2019 de reprise, où le chômage de masse a quand même diminué. On est passé sous les 8%, 8,5% de chômeurs. Il peut réformer, il peut, si je puis dire, électriser sa base centre et centre-droit, voire droite, sur les réformes nécessaires pour le pays. Autant là, il va être en difficulté, puisque la grande partie de son action, il ne parle pas de la dette, plus personne n'en parle, on est encore sur le quoi qu'il en coûte, va être consacré à ce traitement social-là.
39-21, on prend un appel d'un auditeur. Est-ce que Pierre est avec nous ? Pierre n'est pas là. Bon, Pierre, alors en tout cas, je sais que Pierre voulait vous poser une question sur cette affaire des masques. Ne pensez-vous pas qu'avec l'obligation du port de masque, le gouvernement fait ce qu'il aurait dû faire dès le départ et qui nous aurait potentiellement évité un confinement si long, Yves Tréard ?
Bien sûr, c'est évident. Il y a eu un mensonge d'État, on va le dire clairement au début. Pourquoi
vous y allez ce soir.
Pardon ?
Vous y allez ce soir.
Les Français nous en parlent comme ça. Donc
Yves Tréard ne mâche pas ses mots.
Je n'ai jamais mâché mes mots, je dis ce que je pense. C'est vrai, Thierry. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un mensonge d'État parce qu'on n'avait pas de masques. Ouais. La France était sous-dotée en masques. Alors, il y a eu cette histoire où ils ont, pour des millions d'entre eux, ont été détruits parce qu'ils étaient atteints d'obsolescence. Mmh. Et évidemment, et on nous a dit, mais les masques ne sont pas utiles. Le mot a été prononcé. Mmh, ouais. Les masques ne sont pas utiles.
Mais ça...
Et ils deviennent obligatoires. Aujourd'hui, c'est tant mieux. Je pense qu'on va devoir, c'est là où on va devoir apprendre à vivre avec ce Covid, puisque les spécialistes nous disent qu'on en a encore pour un petit moment. Ouais. Et je pense que les Français sont tout à fait prêts à ça, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'on aurait, avec des masques, évité un confinement aussi strict ? Je ne peux pas vous le dire, c'est pas moi qui vais vous le dire.
Bien sûr.
Mais peut-être. Mais...
Sur cette question des masques, rapidement, on a vu quand même là aussi ce couple en rodage cette semaine. On a le premier Emmanuel Macron qui annonce le masque obligatoire le 1er août. Et puis finalement, le lendemain, Jean Castex, il dit maintenant, ce sera
c'est
dès
clair,
la semaine prochaine.
C'est une sorte de couac et qu'il ne va pas aider Emmanuel Macron. Au-delà de la dureté du discours d'Yves Tréard, ce discours est porté par les Français. On a suivi pendant tout le confinement une sorte perception de la gestion de la crise par les pouvoirs publics, la première représentation qui sortait, c'est il a caché le gouvernement des informations aux Français. Et tout ça, c'était focalisé sur les masques qui a vraiment absolument empoisonné la relation de confiance entre les Français et les pouvoirs publics. Ils ne sont pas utiles, on ne sait pas les mettre, etc. Là, clairement, avec le déconfinement plutôt réussi, les choses se sont détendues. Là, quand on interroge les Français, c'est une enquête fiduciaire pour CNews, 87% d'entre eux se disent favorables. C'est quand même pas rien à le fait de porter des masques obligatoirement dans des lieux publics clos, avec une dichotomie où on est moins favorable pour des lieux publics ouverts. Et très clairement, Emmanuel Macron, qui, lorsqu'on interroge sur l'application le 1er août, parle de la question de l'homogénéisation, il pote un peu en touche. Jean Castex le reprend de ce point de vue-là et cette disposition va rentrer en vigueur avant le 1er août. Quand on interroge les Français sur Emmanuel Macron, le discours de la tromperie ou du mensonge sort quand même assez fortement et très souvent, ça se focalise sur les masques.
Elle a une semaine de rodage qu'on détaille encore dans un instant juste après ça. Merci d'être sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous. Ce soir, Thierry Desgirel, vous recevez Yves Tréhard du Figaro et Frédéric Dabi de l'IFOP. Et vos réactions en direct, bien sûr, ça se passe au 39-21.
Et on a parlé de ce nouveau couple à la tête de l'exécutif en rodage. On va maintenant parler des Républicains en rodage aussi. Comment exister, Yves Tréhard, quand on est républicain face à ce nouveau gouvernement et aux annonces Castex ?
C'est très difficile, je dois dire que c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que le gouvernement actuel applique, depuis le début d'ailleurs, les gouvernements d'Édouard Philippe aussi, appliquent une politique de droite, sur le plan économique en moins.
Par exemple, les territoires, etc., ce sont des thèmes...
Bien sûr, qui sont chers à la droite. Et en plus, avec Jean Castex, vient s'ajouter la sécurité, toutes les missions régaliennes qui sont soulignées, surlignées même, ce qui n'était pas le cas avec Édouard
Philippe. Gros ministères en plus tenus par d'ex-républicains.
Alors pour faire court, ce que je dirais, c'est que j'étais persuadé au début, ce qui n'est pas toujours mon cas, j'étais persuadé au début du quinquennat que s'il avait un adversaire redoutable, Macron, il viendrait de la droite, parce que la droite était encore forte à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les territoires, ils ont beaucoup d'élus locaux, et que néanmoins ils avaient des têtes d'affiche. Et je pensais que la gauche finirait vraiment dans le fossé. Eh bien, à mi-mandat, un peu moins, puisqu'on est à 18 mois, c'est le contraire. C'est le contraire. La droite est complètement, je dirais, déboussolée, désorientée, n'arrive pas à avoir une tête d'affiche, n'arrive pas à avoir d'idée originale, ressasse tout le temps la même chose, que des vieilleries d'ailleurs. Et vous avez la gauche qui arrive à se refaire une santé, et on l'a vu avec les municipales, autour justement de l'idée écologique. Alors, je ne sais pas, parce que comparaison n'est pas raison, je ne sais pas si ça sera vrai pour des élections nationales, mais je dirais que d'une certaine façon, avec une personnalité forte qui s'appelle Madame Anne Hidalgo, maintenant la maire de Paris qui a été réélue, et qui est vraiment la figure centrale de la gauche française, eh ben, je me dis qu'à terme, ça peut peut-être se jouer entre la droite macronienne et la gauche Hidalgo.
Frédéric Dabi.
Bien sûr, tout ça se tient, mais à 600 jours du vote, je serais extrêmement prudent. Mais non, là où je partage, je vais essayer de synthétiser avec moins de brio ce qu'a dit Yves, mais d'un côté, on a une situation paradoxale. D'un côté, nous avons un espace à droite complètement encombré, cannibalisé depuis 2017, depuis la première phrase d'Edouard Philippe, je suis un homme de droite, depuis les mesures et les réformes où les gens de droite dans nos enquêtes nous disaient « Ah, ce sont les réformes que la droite n'a jamais fait quand elle est au pouvoir, par la nomination d'un Jean Castex, encore malgré tout peu connu, mais dans nos premières enquêtes, il surperforme chez les personnes âgées, il est à 70% chez les sympathisants des LR. » Donc, il n'y a pas d'espace à droite, mais à droite, il y a des incarnations présidentielles. François Baroin, Xavier Bertrand, voire Valérie Pécresse. C'est complètement vrai qu'à gauche, il y a clairement un espace politique entre des gens de gauche et dans notre dernière enquête IFOP Humanité, ce n'est pas le Figaro, sur l'identité de gauche, on a depuis 4 ans, chaque année, 44 à 46% des Français qui se définissent sur un axe gauche-droite, très à gauche ou au centre-gauche. Il y a un espace, mais il n'y a pas d'incarnation. Bien sûr, la carte Anne Hidalgo peut être abattue. Il y a une volonté de sa part qui n'est pour l'instant pas là du tout, mais on connaît l'amicale pression des amis. C'est vrai qu'on a toujours vu le maire de Paris, à l'exception de Jean Tiberi, avoir un destin présidentiel. Maintenant, c'est vrai qu'on a ce cas du champ politique où la droite a gagné des élections municipales, il faut le dire, mais est complètement déboussolée à l'échelle nationale. Et la gauche peine aussi à exister en termes d'alternative à Emmanuel Macron.
39-21, Mathieu nous a contactés. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Thierry.
Vous nous appelez de Paris.
Oui.
Et nos grandes voix ce soir vous écoutent.
J'avais une question à vous poser concernant le positionnement des Républicains. Ne pensez-vous pas, étant donné que plusieurs Républicains ont rejoint l'équipe Macron, le maire Darmanin, Édouard Philippe, Castex maintenant, ils n'auraient pas intérêt à se positionner sur les thèmes sur lesquels Macron reste quand même le plus flou, qui sont l'immigration, la sécurité, l'identitaire, afin de pouvoir quand même se démarquer bien de la Macronie et puis essayer de récupérer ce qu'ils peuvent chez Marine Le Pen, de voix qui sont partis chez elle. Ne croyez-vous pas que ce serait la recette pour eux, pour reprendre un peu du poids de la bête et de la vigueur?
Évidemment. Yves Tréhard vous répond, Mathieu.
Évidemment. C'est ce que j'appellerais la droite patriotique. Et cette droite patriotique, je la vois poindre, justement. Et d'une façon étonnante, vous allez voir, parce qu'elle ne vient pas des Républicains, elle vient de gens qui essayent de tracer un sillon entre le Rassemblement national et les Républicains.
Ouais.
Et je regarde avec beaucoup d'attention ce qu'a réussi à faire Louis Alliot à Perpignan.
À Perpignan.
Sans jamais se réclamer du Rassemblement
Bien
national,
sûr, ouais.
C'est la jurisprudence Robert Ménard.
Oui.
C'est-à-dire une espèce de droite de bon sens. Alors après, on interprète comme on veut. Hein. De bon sens, patriotique, pas très européenne, qui cultive justement le terroir et qui cultive la proximité. Ce qui n'a pas échappé à Jean Castex, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va sur ce terrain-là.
Frédéric Dabi.
Tout à fait d'accord avec Yves, mais cette droite, dans la perspective d'une élection présidentielle, il faut qu'elle soit incarnée.
Ah oui,
et on peine à trouver une incarnation autre des figures locales. Là où ce que dit Mathieu est très très intéressant, et ça me permet de nuancer ce que Yves a dit tout à l'heure, oui, Jean Castex paraît incarner des sujets régaliens. Le contraste entre le silence total du président sur l'affaire de Bayonne, sur la tragique affaire de Bayonne, sur le bus et le gymnase incendié à Nanterre. Dijon, c'était à peine il y a 3 semaines. Et Jean Castex qui en a parlé, ce n'est pas pour autant que la posture régalienne va être reconnue à Emmanuel Macron. On a diffusé ce matin un sondage sur les traits d'image associés au président de la République sur a de l'autorité. Il est passé en 2 ans de 73% à 50%.
Ouais.
Clairement, l'autorité de l'État mise à mal est mise au passif du président actuel.
Merci à vous Mathieu de nous avoir contacté au 39-21. On termine avec Yves Tréhard. Entre dimanche soir et mardi, on aura une succession de nouvelles nominations, ceux des secrétaires d'État. On va encore piocher chez les Républicains, Yves Tréhard.
Oui, il y a des entreprises de débauchage, évidemment. On parle beaucoup de Guillaume Larrivé, qui a voté d'ailleurs la confiance.
Et
il est le seul à avoir voté la confiance chez les Républicains à Jean Castex. Il y aura des débauchages, des tentatives, je ne sais pas si elles réussiront, ça paraît assez évident. Normalement, il devrait y avoir une dizaine de secrétaires d'État, et comme d'habitude, eh bien, on va arriver à 15. Et il y aura aussi
beaucoup de députés
de la majorité.
Alors, vous voulez faire un gouvernement serré, resserré.
Oui, c'est toujours une ambition.
Beaucoup de députés de la majorité présidentielle aussi, du MoDem et de La République En Marche.
Eh bien, parfait. Ça sera la semaine prochaine, bien sûr, sur Europe 1. Merci à vous deux. Bonne soirée.
Bon
merci. Europe 1. À suivre, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le journal de 19h de François Claus, les départs en vacances, dans le train et masqué. Nous serons à Bordeaux. À tout de suite.
Europe 1.